à tous et bienvenue dans ce 41e épisode des Clairvoyants. Bonjour Geekzone et bonjour à tout le monde, 41e épisode des Clairvoyants, comme chaque mois on se retrouve pour parler du MCU, le Marvel Cinematic Universe, avec mes acolytes Fox, bonjour Fox.
Hello Fask.
Et mon autre acolyte Thomas alias Archeon.
Salut.
Comme chaque mois on fera un peu le tour des news en rapport avec le MCU, on fera aussi un petit peu de theory crafting rigolo, on écoutera de la musique et on fera un focus, ce mois-ci les gars on fait un focus sur...
Valkyrie
donc, personnage secondaire dans le film Thor Ragnarok dont on aura bien évidemment l'occasion de reparler tout au long de ce podcast. On fera aussi justement une petite analyse sur ce film dans notre section Marvel Insiders et puis on répondra à vos courriers à la fin de l'épisode et je propose qu'on y aille tout de suite et qu'on commence par notre première section True Believers.
I wouldn't say I'm a true believer.
True Believers, c'est notre section news en rapport direct avec le MCU. On va commencer par une news qui a beaucoup fait couler d'encre cette semaine. On a été beaucoup alpagué sur Twitter à ce sujet. La Fox aurait dans ses cartons l'idée de se faire racheter par Disney. Alors bon, déjà on va signaler que ça a été démenti depuis par la Fox, hein, qui dit que c'est pas du tout le cas. Et puis on peut peut-être se poser quand même deux minutes pour réfléchir à ce que ça impliquerait par rapport au MCU, puisque c'est quand même le sujet qui nous intéresse. Est-ce que de votre côté, vous pensez que si Disney rachète un jour la Fox, ça veut dire le retour des personnages licenciés à la Fox comme les X-Men ou les 4 Fantastiques dans le giron de Marvel Studios? Et si oui, est-ce que ce serait une bonne chose ou une mauvaise chose?
Alors le fait qu'on récupérerait notamment les X-Men serait une bonne chose. Il n'est pas question de recommencer à faire de la merde les Fantastic Four. Je pense qu'on en a assez fait les Fantastic Four. C'est bon, ils sont tous ratés dessus, on va arrêter là. Après, est-ce que ce serait une bonne chose? Je renverrai sur cet article que j'avais vu chez The Verge il y a quelques années, que Paco a reposté cette semaine, où on voit l'établissement d'un empire créé par Disney, un empire totalement... Alors c'est vraiment de l'anticipation, tu vois, mais Disney rachète la Fox... Disney devient le premier entertainer du monde et puis Disney crée une race d'humains croisés des animaux qui s'appellent les Crimzoïdes et à la fin c'est les maîtres du monde.
Je me souviens de ce papier.
Mais... Voilà. Très bon article sur The Verge justement, c'était pour annoncer qu'il y avait un nouvel éditeur spécial dédié à Disney Marvel, tout ça. Mais est-ce que ce serait une bonne chose? Je suis pas forcément certain en fait. Est-ce que c'est déjà une très grosse concentration ces dernières années autour de Disney? Ils ont déjà toute la saga Star Wars, ils ont toute la saga Marvel MCU et ils ont ils le font bien, on est d'accord, ils le font bien, mais ils ont déjà une grosse concentration de films et de grandes licences. Ils récupéraient en plus toutes les licences de la Fox. Je sais pas si au niveau créatif on se retrouverait pas avec une machine de guerre épuisante en fait.
C'était un peu le sens de ma question. Thomas, t'en penses quoi toi? Ça serait une bonne chose ou une mauvaise chose pour le MCU que les personnages de la Fox reviennent?
J'ai du mal à me faire une idée en fait. Je pense que ce serait une bonne chose dans le sens où on aurait de l'accès plus facilité, un panel de méchants ou de persos qui peuvent juste name dropper ou juste balancer dans les films. Pour ce qui est Fantastic Four et X-Men, X-Men ça a été rincé, je sais pas si c'est réutilisable au ciné.
C'est clair.
Moi j'aimerais bien avec un nouveau line-up peut-être plus tard, mais en dehors du MCU en fait, s'ils veulent se refaire un autre univers à côté, je sais pas, et d'autres personnes derrière, pourquoi pas. Fantastic Four, je suis pas chaud du tout, j'ai jamais été vraiment fan. Je sais pas, première vue ça me semble plutôt, enfin ça a été démenti, mais si ça se fait, parce que même si démenti, c'est qu'il y a une rumeur quelque part, et si une rumeur quelque part, c'est qu'il y a peut-être une idée derrière. Mais je pense que c'est surtout pour... on s'arrête au ciné parce que c'est là où on est spécialisé, mais je pense qu'il y a d'autres trucs qui sont impactés derrière, pour les comics, pour les droits d'utilisation, pour des jouets, pour des jeux, pour des conneries du genre. Je pense qu'il y a peut-être d'autres choses derrière auxquelles on pense pas. Et après, je rebondis aussi sur la partie où on est un peu fort, sur le theory crafting. Ça tombe la même semaine que l'annonce qu'a fait Fishburne sur son projet secret bizarre, là.
Ouais, tout à fait.
Où justement, il disait ça faciliterait un peu de red tape. d'avoir accès à d'autres licences, machin. Pour l'instant, je sais pas. Bonne chose, mauvaise chose, je sais pas. Moi, je suis pas chaud parce que c'est des licences qu'on j'ai déjà assez vues. Faut voir ce qu'ils pourront en faire, en fait. Je vais attendre.
On va s'arrêter sur le sujet parce que c'est pas non plus, c'est pas non, enfin, finalement, ça a été démenti, donc c'est pas non plus super important. Je voulais juste finir en disant que, bah, de toute façon, même si Disney rachetait la Fox, ça veut pas forcément dire que la Fox disparaît. La Fox continuera d'exister en tant qu'entité. Et juridiquement, je suis quasiment certain que la renégociation autour des droits Marvel va être une des clés de ce rachat et que ce sera pas fait non plus au détriment de la Fox. Enfin, je vois pas la Fox lâcher ses licences.
Ça prendrait progressivement 10 ans et puis dans 10 ans, ils en auraient un nouvel MCU.
Ils peuvent pas tout racheter vu qu'ils ont déjà ABC ou chez Disney, ils peuvent pas racheter un deuxième broadcaster, donc il y aurait les chaînes, etc. Ce sera un bordel sans.
C'est ça. Ouais, ouais. Donc voilà. Donc de toute façon, c'est pas fait. Donc on voulait juste revenir là-dessus parce que ça me paraissait important et puis on nous a beaucoup posé la question. Donc pour le moment, il y a rien de prévu à ce niveau-là. Mais encore une fois, hein, avec Feige, on n'est pas à l'abri d'une surprise et d'une grosse annonce. Qui sait? On verra. On va revenir aux choses concrètes du MCU et on va d'abord parler de Thor Ragnarok. Alors on l'a vu, on fera pas vraiment une critique, on en reparlera tout à l'heure dans notre section rétrospective, notre section analyse. Je voulais juste préciser deux choses. Bah, déjà que les chiffres sont super bons, hein, c'est le meilleur démarrage pour la franchise Thor. C'est aussi un très très bon démarrage dans l'absolu au niveau du MCU. Hein, il est mieux que Doctor Strange, je pense, et en dessous de Captain America Winter Soldier, ce qui est quand même pas mal. Il est un peu en dessous des Guardians aussi, mais ça reste quand même un gros lancement. Et on a la confirmation de Taika Waititi, le réalisateur donc du film, qu'il a préparé un cours dans la même veine que ce qu'on avait vu entre Banner et Thor, et puis son colocataire Daryl. Hein, donc il y a apparemment une scène qui a été tournée entre Daryl et le Grand Master de Jeff Goldblum. Donc je suis assez impatient de voir ça. J'espère qu'on pourra le voir sur le Blu-ray. On en reparle tout à l'heure. Thor Ragnarok, si vous voulez bien, les gars, on va passer à la suite avec Black Panther. Il y a eu un nouveau trailer qui est sorti.
Bah, le jour de le lendemain, non, même pas le jour de la sortie de l'épisode.
Oui, bah comme d'hab, hein. Infinity War arrive, les gars. Restez, c'est ce week-end, c'est sûr, c'est sûr et certain, là, c'est ce week-end. Bon. Mais sinon, bon, voilà, nouveau trailer qui moi m'a pas plus éclaboussé que ça, on va dire. J'avais vraiment été hypé par le premier, un peu moins par le deuxième, mais après, je reste complètement impatient de voir le film sur grand écran. Je rappelle qu'il sort chez nous a priori le 14 février, donc deux jours en avance par rapport aux US. Et voilà, moi, je suis vraiment impatient. C'était juste pour vous signaler qu'il y avait un nouveau trailer donc qui était sorti, si vous vouliez aller jeter un coup d'œil. Infinity War, on commence à avoir de plus en plus de news, forcément la date de sortie se rapproche, hein. Je vous rappelle que c'est le 25 avril chez nous et le 4 mai aux US, donc on va pouvoir leur spoiler la gueule et ça c'est cool. On a un premier article intéressant qui parle de Josh Brolin qui vante le traitement de Thanos. Il parle carrément d'un traitement next level au niveau des bad guys chez Marvel, donc ça semble confirmer toutes les théories qui vont dans le sens que ce film serait donc un film autour de Thanos et dont Thanos serait le héros, hein. Thomas, on en avait déjà parlé.
C'est la théorie principale qu'on avait dès le départ.
Ouais,
donc ça serait lui le grand gagnant final.
Voilà.
Et ça serait une merde sur nom à la fin du film.
Voilà, et ça, ce serait
ils
plutôt cool.
Ils vont filer
cool.
Les clés de la Terre.
Ouais, exactement. Ronin, je sais pas comment on dit, Ronin, on va dire. Allez, Ronin semble donc a priori bel et bien confirmé. On a encore eu des photos de tournage, donc de.
Il a les jambières.
De
il a
Renner, il a le costume, donc ouais, ça semble se confirmer. Confirmation aussi de.
Barton n'est pas mort.
Confirmation aussi de Kevin Feige que Infinity War serait bien un film de heist qui s'étalerait, et ça on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure aussi, dans l'espace et dans le temps, et ça m'inquiète un petit peu, mais on en reparle tout à l'heure. Captain Marvel, Kevin Feige toujours, qui est très bavard pour le moment, explique que ce sera un film important dans la conclusion de la phase 3, donc a priori si on se dirige vers un Secret Invasion comme on le pense, ça pourrait donc avoir son rôle à jouer. J'ai lu des rumeurs comme quoi on pourrait éventuellement découvrir que Black Widow serait un Skrull. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, on commence à fantasmer sur ce sujet-là.
Je repense à cette scène, cette magnifique scène.
Où il y a
accouché
avec Tony Stark.
Ouais, elle est dingue avec Monsieur Stark et d'un coup, elle se transforme en Skrull. Et il fait, c'est tout ce que ça te fait d'avoir un infiltrateur Skrull sur toi. Bah écoute, vu dans mon boulot, j'ai tendance à avoir trois occasions tous les ans de coucher les extraterrestres. Donc on fait quoi? On s'entretue ou on couche d'abord? Tony est fabuleux et les Skrulls.
Donc voilà, donc on n'a pas plus d'infos pour le moment, il reste très mystérieux, et puis de toute façon le film sort que le 8 mars 2019, donc on a encore le temps. On a juste eu une petite news casting concernant l'arrivée du bad guy, qui serait a priori incarné, enfin en tout cas c'est ce que Marvel voudrait, ils sont en train de courtiser Ben Mendelsohn, hein, qu'on a pu voir dans Rogue One, hein. Je connais plus le nom de son perso, mais c'était le bad guy de Rogue One en gros. Un acteur que moi j'aime beaucoup, que j'avais vu dans un autre film où il jouait un mec qui était drogué au jeu, et c'était un plutôt cool film, le titre méchant. m'échappe là tout de suite, mais j'essaierai de le retrouver. Et c'est tout pour le Cinoche, en fait. Donc, on va passer à la télé. On va commencer par un truc assez rigolo. Concernant Marvel Télévision, j'imagine que vous l'avez lu, mais si c'est pas le cas, Jeff Lubb, donc le big boss de Marvel Télévision, s'est expliqué sur l'absence de la tour Avengers des séries de télé, notamment des séries de télé Netflix. On a déjà eu l'occasion d'en parler en long et en large ici dans ce podcast. Et son explication est quand même à se pisser dessus de rire. Fox, il explique qu'en gros, elle est pas là parce qu'en fait, on la voit pas quand on regarde comme ça au loin.
Oui, c'est ça, dans l'angle où on est.
Il y a un truc un peu poético.
On peut pas le voir, c'est clashé.
Mon Dieu.
Non, mais Jeff Lubb a tendance à expliquer de la merde. Hein.
Franchement, plutôt que de dire, les gars, on n'a pas accès aux assets, Marvel Studios veut pas nous les filer, ça coûte de l'argent de les faire, donc on le fait pas. Je sais pas, enfin, donner une raison crédible.
Viable.
Enfin, voilà, une espèce d'explication un peu onirique, là, qui me semble complètement...
Rien dire, c'était pas mal aussi.
Tout à fait, mais bon, enfin, il y a un moment, j'imagine qu'on lui pose la question toutes les interviews, ouais, donc ça a dû lui casser les couilles. Bref, restons sur la télé avec Agents of S.H.I.E.L.D. La saison 5 arrive, on a annoncé le retour des Kree et d'un certain Salzbeck, qui sera un assassin Kree. Alors moi, c'est un perso que je connais pas du tout. S'il y en a un de vous deux qui veut dresser un rapide portrait du bonhomme, s'il le connaît.
Là, j'ai plus de souvenirs de Salzbeck.
Ah bah bravo.
Bravo les experts.
Cela dit, ça va dans le sens où je voulais aller, c'est-à-dire que c'est globalement un personnage que personne connaît en fait. Hein, mais bon, voilà, il l'annonce comme si c'était quelque chose de fantastique. Donc, un assassin Kree qui serait a priori connecté aux Inhumans, si j'ai bien compris, c'est lui qui les amènerait à s'exiler sur Terre. Donc, bah voilà, est-ce que ce serait enfin une connexion avec cette série que moi j'ai décidé d'oublier, donc Inhumans, qui passe pour le moment sur sur la télé américaine et qui fait vraiment pitié.
C'est la merde, j'en suis à l'épisode 7, au secours.
Donc voilà, et puis des nouveaux persos, Flint qui serait donc un New Human. Je rappelle que maintenant on appelle les Inhumans des New Humans, justement pour faire contraste avec les vrais Inhumans, la famille royale. Ça devient vraiment compliqué. Et donc, trois persos originaux.
C'est à cause du papier, ça. C'est à cause de Charles Soule.
Ouais. Merci les comics. Et donc, trois nouveaux persos, comme je le disais, qui arrivent aussi. Des persos originaux créés pour la série. Donc, ça commence à refaire beaucoup de monde, beaucoup de renouvellement de roster chez Agents of S.H.I.E.L.D. Donc, je sais pas
pour
trop.
Pour une dernière saison, de toute façon.
Ouais, c'est clairement.
Moi, je reste persuadé que c'est la dernière.
On est tous convaincus.
Ça fait beaucoup d'Inhumans pour une série où il y a un spin-off, justement, pour se débarrasser d'Inhumans.
Bah ouais. Oh, bah, mais bon, quand on voit comment se passe le spin-off, hein, si tu veux.
Si on pouvait plus se débarrasser de Hank Perlmutter pour l'empêcher de faire ce spin-off. Et vous vous rendez compte quand même qu'on peut se demander, mais ça aurait été mieux avec Babouliné en fait. Et là, tu sais qu'on est tombé super bas quand tu te dis que ça aurait été vachement mieux avec Vin Diesel en Black Bolt.
On va rester sur la télé avec The Punisher du côté de Netflix. On a enfin une date, ce sera le 17 novembre.
Ouais.
Alors, il y a des premiers retours de journalistes qui ont pu voir une partie de la série, comme à chaque fois, hein, les quatre premiers épisodes ici, je pense, qui sont des retours bons mais prudents. C'est-à-dire que, on va voir où ça mène. C'est comme souvent avec les séries Netflix, les débuts sont assez bons et puis après, ça s'enlise un peu au milieu. Donc, on verra comment ça se passe pour The Punisher, qui est une série qui est pas facile à marketer en ce moment. On sait que il y a de gros débats aux États-Unis autour de nouveau du port d'armes, etc. Et puis les attentats multiples, donc c'est pas une bonne période pour sortir une série comme ça, donc voilà, ils vont la sortir quand même le 17 novembre et on verra un peu ce que ça donne. Runaways, on a priori, alors c'est pas confirmé, c'est une pseudo-rumeur on va dire, une première diffusion le 21 novembre sur Hulu, donc je rappelle que c'est la série adaptée du comics de Brian K. Vaughan qui devrait s'écouler sur 10 épisodes sur Hulu, donc et on aurait 3 épisodes d'un coup le 21 novembre, donc on pourrait déguster 3 heures de Runaways dès le 21 novembre, à confirmer, donc on vous en reparle dès qu'on a plus d'infos. Saison 3, c'est une news qui va faire plaisir à Fox, ça retour de Vincent D'Onofrio en Kingpin, dès la saison 3, donc voilà, j'imagine que tu sautes de joie.
Ah bah, moi je l'ai trouvé absolument fabuleux dans son rôle de Kingpin, donc je suis très content de le voir sous cette saison 3. Maintenant qu'on s'est enfin débarrassé de cette connasse d'Electra Natchios, je suis content qu'on revienne vers les bases, ouais. C'est-à-dire un vrai antagoniste comme D'Onofrio qui inspire la peur et pas un truc à moitié fait, ni fait ni à faire, comme on a pu le voir avec Defenders, qui était pas fabuleux dans cette phase-là, donc.
Moi, je pense que tu te réjouis un peu vite pour Elektra, à mon avis.
Oui,
c'est ce que j'allais dire. Il y a le twist à la fin. Elektra tue le Kingpin bêtement en le poussant d'un balcon ou une connerie dans le genre.
Glissé.
Et puis, c'est elle qui devient la bad guy de,
oh,
de
putain,
la saison
non,
3.
Si
et
vous
là,
voulez arrêter, on a déjà souffert assez cette année.
Daredevil, série qui change de showrunner puisque c'est Eric Olson qui va prendre le relais. Eric Olson, malheureusement, moi, je le connais pour un truc qui m'a pas du tout plu. C'était l'adaptation télé de The Man in the High Castle.
Ah, t'as pas aimé?
J'ai pas aimé du tout. J'ai trouvé ça assez lent et assez vide, avec pourtant des moments assez cool, mais au final, sur la longueur, je suis arrivé à la fin de la première saison en me disant, ok, so what? Et j'ai commencé la saison 2 en voyant que c'était exactement le même genre de rythme, etc. J'ai pas du tout accroché. Après, bon, voilà, c'est une série qui a sans doute des mérites et c'est pas, en tout cas, c'est pas Dexter, donc c'est pas non plus notre ami Scott Buck. Donc, tant que lui reste loin de tout ce qui nous intéresse, on est content. La saison est confirmée pour le moment à 2018, mais sans plus d'infos, donc on verra si on a des infos d'ici la fin de l'année, peut-être un teaser dans la série Punisher, qui sait. Et on va terminer cette section news avec une rapide petite annonce concernant les New Warriors, cette série que tout le monde avait oubliée. Série donc qui devait à la base être diffusée sur Freeform, qui devait faire partie du MCU et qui donc finalement ne sera pas diffusée sur Freeform. Alors c'est assez bizarre. Marvel a retiré la série en fait de Freeform et est en train d'essayer de la vendre au plus offrant.
Bah c'est surtout donc, que Freeform apparemment n'a pas pu trouver de slot pour pouvoir diffuser la série.
Ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas très clair. Il y a
alors qu'ils sont battus pour l'avoir.
Ils sont pas compris, je crois. Voilà.
Et ce sera pour 2018, du coup, New Warriors.
Au minimum, oui, parce que là, s'ils ont pas encore commencé à la vendre, je sais pas si ils ont rien tourné encore.
Je commence à avoir une idée
donc,
là-dessus, mais vu que Disney a annoncé qu'ils veulent retirer petit à petit toute leur propriété vidéo des trucs de streaming pour les ramener vers la propre plateforme de Disney, est-ce que New Warriors ferait pas partie du produit d'appel?
Bah c'est pas ce qu'ils disent, hein, puisqu'ils disent qu'ils sont en train d'essayer de trouver un acheteur. Maintenant, effectivement, ça peut être de la poudre aux yeux pour se préparer l'arrivée sur le service de Disney. Effectivement, on verra. Voilà qui conclut donc cette sélection de news. Hein. On a passé en sous silence certains trucs moins importants parce que sinon ça tient pas en un quart d'heure. On va faire un petit peu de théorie crafting maintenant, les gars. On va passer donc à notre rubrique Avengers. C'est pas l'heure. The Tesseract has shown me so much. It's more than knowledge, it's truth. Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre rubrique récap, théorie crafting et spéculation rigolote. Je voulais qu'on revienne sur Avengers Infinity War, parce que bon, on se rapproche de la date de sortie, donc forcément on va commencer à avoir de plus en plus de biscuits et de plus en plus de raisons de spéculer des trucs rigolos. La dernière spéculation en date, elle découle d'une citation, enfin d'une réponse de Kevin Feige dans une interview où il expliquait qu'en fait Infinity War, ce serait vraiment un heist movie, ça on le savait déjà, donc un film de cambriolage, parce qu'il va s'agir d'aller récupérer les pierres, mais probablement du côté de Thanos donc, et que ce serait donc un heist movie qui s'étalerait non seulement dans l'espace, ça on s'en doutait aussi, mais dans le temps. Et là, moi, ça m'a fait un peu tiquer. Alors, déjà, première réflexion, est-ce qu'il parle du temps avec une notion de voyage dans le temps, ou est-ce que c'est un film qui va se dérouler dans le temps, dans le sens où on va avoir des flashbacks, des choses qui se sont passées il y a plusieurs années, etc. Votre avis sur la question, Fox, d'abord, tu crois que on va avoir du voyage dans le temps dans Infinity War?
Il y a une possibilité d'utilisation de la Time Stone pour foutre c'est le ça, bordel ouais. de la part de Thanos, ça j'en suis certain, et je pense qu'il va essayer de peut-être d'effacer certains personnages de l'histoire s'il n'arrive pas à les vaincre dans le temps présent. Mais je pense surtout le déplacement dans le temps, ça va être d'avoir l'origine de Thanos et peut-être de voir qu'il a eu une première rencontre sur Terre avec une certaine Captain Marvel. Ce qui pourrait peut-être avoir poussé Captain Marvel pour une raison X, Y à avoir atterri dans le Microverse, donc dans le Quantum Realm où elle serait bloquée.
C'est une théorie intéressante, mais le problème c'est que pour le moment on a quand même quasi confirmation que Captain Marvel ne sera pas introduite dans Infinity War, donc
elle va arriver sur partout, donc il faut à un moment qu'on ait un launcher ou qu'on ait un indice quelque part, et je pense qu'elle est intimement liée au passé de Thanos pour une raison X ou Y, et qu'ils se sont peut-être déjà rencontrés. Après, sur Thanos, on a beaucoup à apprendre, il va falloir beaucoup éduquer les gens, parce que tu fais pas venir un Big Bad comme ça, même si on l'a vu 3 minutes à chaque fois, on sait qu'il est grand, qu'il est méchant, quoi.
On en reparlera dans quelques minutes, mais on pourrait éventuellement lier du coup la Secret Invasion à Thanos, mais ça on va en reparler. Thomas, je voulais juste avoir ton avis sur sur le côté voyage dans le temps. Tu penses qu'ils voulaient parler de vrais voyages dans le temps ou bien simplement qu'effectivement on va avoir une saga qui s'écoule sur de nombreuses années avant d'arriver au point actuel?
Alors comme Fox, je pense qu'on aura un peu les deux en fait. On a la Time Stone qui va sûrement foutre un peu le bordel. Mais pour l'instant, on l'a juste vu gérer le temps de façon...
cyclique.
Ouais, cyclique exactement. Alors, on n'a pas vu de gros déplacements dans le temps des personnages. Donc c'est un truc qui se garde sous le coude pour le faire pour Infinity War. Et après, pourquoi pas, ouais, des gros flashbacks. Ce qui est intéressant surtout, c'est le parallèle avec Captain Marvel. Vu qu'on n'a pas l'écrit comme dans son origine sur le papier, on pourrait très bien la rattacher à une origine avec Thanos. C'est grâce ou à cause de lui qu'elle a ses pouvoirs, ou un truc du genre.
Mmh, c'est ce à quoi je voulais en venir tout à l'heure, et on va en parler maintenant. Thanos, donc on part sur le principe où on va probablement avoir une trame liée à Secret Invasion. Enfin, les Skrulls, pour moi, ça me paraît indissociable de la notion de métamorphe, de pouvoir changer d'apparence, et donc de s'infiltrer. Donc, même si c'est une adaptation relativement lâche, comme c'était le cas pour Civil War, je reste convaincu qu'on va avoir au moins des éléments de Secret Invasion, si pas dans Captain Marvel, au moins dans Avengers 4. Du coup, est-ce qu'on pourrait effectivement lier cette Secret Invasion à Thanos dans le passé, en expliquant qu'en fait, bah, c'est lui qui est à la base de tout ça, qui a pris le contrôle des Skrulls d'une certaine manière, qui les a mis à sa botte et qui leur a dit bon ben voilà, vous allez infiltrer la Terre, et qu'on se rende compte qu'en fait, une fois de plus, c'est lui qui est derrière tout ça, qui manigance dans l'ombre. Je sais pas ce que vous en pensez, Fox.
Il y a une ressemblance physique très légère entre Thanos et les Skrulls qui peut aider sur le plan visuel, c'est-à-dire que Thanos, avec son énorme menton, avec ses différentes fissures, les Skrulls ont aussi souvent ce menton sur leur super Skrull. Il a un menton très arrondi avec les mêmes fissures dessus. Visuellement, ça fait penser qui pourrait se ressembler.
C'est vrai qu'on a toujours aucune info sur l'origine de Thanos, donc si ça se trouve, celle du MCU va être radicalement différente de
celle
du comics.
C'est pas un titan, c'est clairement pas un titan, sinon on aurait déjà des hints sur d'autres persos. Il faudrait expliquer toute sa famille, il faudrait expliquer Star Fox, enfin ce serait super compliqué, et pas intéressant, parce que comme tu vois, les Celestials, déjà comme on les a expédiés, il va pas être dans l'intérêt de Marvel d'expliquer les titans et pourquoi il est comme ça. Donc oui, on pourrait en faire une espèce de Skrull supérieur, et le rattacher directement au Skrull, et de faire que les Skrulls qui étaient verts deviennent bleus, et puis basta quoi. Après, évidemment, les fans vont hurler, je le comprends très bien, mais ça permet d'alléger vachement le plan cinématographique.
Cela dit, moi j'y pense à l'instant, effectivement, si on essaie de lier Thanos au Skrull, c'est vrai que c'est la première fois qu'on en parle, et c'est la première fois que j'y pense, mais pourquoi pas. On peut même projeter l'historique de Thanos dans les comics sur une trame Skrull, en expliquant que c'est un Skrull différent, par exemple, qui n'aurait pas eu ce pouvoir de métamorphe ou une connerie dans le genre, qui aurait été exilé de son peuple, comme ça a été le cas par rapport à Titan dans les comics, etc. Donc on peut malgré tout réussir à imbriquer les deux histoires. Je voulais avoir ton avis sur le sujet, Thomas. Tu crois, toi, une connexion entre le Thanos et les Skrulls, peut-être pas aussi forte que celle que je viens de décrire, mais en tout cas, que Thanos soit à l'origine de ce qui pourrait être la Secret Invasion version MCU?
Moi, je crois carrément à une connexion. Je pense, on en a discuté tout à l'heure avec le pouvoir de Captain, mais je pense qu'une connexion est carrément possible. Le seul truc où je suis pas d'accord avec vous, c'est se couper toute la partie Titan, en fait. Se le couper maintenant, ça sera un peu dommage, parce que c'est quand même un pan de l'univers cosmique que eux veulent développer, en plus, à côté Marvel Studios.
Ouais, tout à fait.
Ce serait se couper l'herbe sur le pied sur un truc qu'ils pourraient exploiter plus tard. Mm. Donc, des pistes, on pourrait en avoir une peut-être à chier. La première qui viendra en tête, et c'est par rapport à la ressemblance physique que Thanos a avec les Skrulls qu'on nous a montré, les Skrulls en général. On part du principe que Thanos, c'est un bad guy surtout axé sur les pierres de l'infini, un peu mystique, un peu, enfin, je sais pas dire magie, mais sur un côté vraiment mystique. On oublie aussi que c'est un scientifique, le mec a un intellect vraiment hors du commun. Mmh. Donc on peut penser par exemple à ce que les Skrulls, ça soit son armée perso qui s'est développée sur son ADN, qu'il a cloné ou n'importe.
Ça pourrait se tenir.
Sur le principe CRI, en fait.
Ouais,
tu voudrais dire,
fait.
Comme ouais. Le Black Order, quoi. Une ouais, variation du Black Order, ça pourrait être intelligent, ouais. Ça pourrait être super intéressant.
On a les expériences qu'il a fait sur les deux frangines qu'on a actuellement, donc Gamora et Nebula.
Mm-hmm.
Et ouais, à côté, on a tout son vaisseau. Enfin, moi, je pars plus de l'aspect scientifique du mec qui s'est créé son armée et qui va faire ce qu'il a à faire. Bah, ça rejoint, en fait, l'origine de Captain Marvel qu'on avait tout à l'heure. C'est une expérience ratée au niveau de ses pouvoirs.
Tout à fait, ouais.
On a les Skrulls derrière qui pourraient être ses clones, qui l'utilisent comme ses hommes de main, etc.
Ça se tient, et ça se tient d'autant plus qu'effectivement, j'avais pas du tout, j'avais un peu oublié le côté scientifique de Thanos. C'est vrai qu'on en parle assez rapidement dans le MCU, mais oui, il a expérimenté sur Gamora, il a expérimenté sur Nebula, et Dieu sait sur combien combien d'autres personnes encore. Enfin, on sait que son Black Order arrive, là, ce sont les Children of Thanos dans le MCU, mais ce sont aussi probablement le résultat d'expériences plus que des vrais enfants, en fait. Et donc, effectivement, avoir Captain Marvel d'avoir Thanos en origin story Captain Marvel, avec derrière, en trame de fond, les Skrulls qui seraient donc son armée, sa chair à canon, ça pourrait être intéressant, effectivement, et puis ça pourrait être tout englobé de manière assez jolie finalement dans un seul ensemble, avec Thanos vraiment en trame de fond pour toutes les intrigues ou quasiment du MCU, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Je voulais qu'on revienne quand même sur le côté voyage dans le temps. Alors moi, c'est un truc qui me fait toujours très très peur, parce que le voyage dans le temps, c'est un artifice quand même souvent mal utilisé dans les films. On l'a vu avec Days of Future Past. Enfin, moi, j'ai pas du tout accroché à leur manière de gérer la notion du temps. Après, si on veut commencer à être vraiment réaliste et crédible, il faut partir dans des trucs complexes comme l'excellent Primer, qui est un film sur le voyage dans le temps, qui est sans doute un des meilleurs films sur le voyage dans le temps, mais qui est pas vraiment un truc facile d'accès. Du coup, c'est compliqué et c'est dangereux, parce que ça permet de réécrire l'histoire. Alors, on sait qu'il y a des photos de tournage d'Avengers 4 qui viennent d'arriver là il y a pas longtemps, où on voit Tony Stark avec un équipement du Shield. Alors, est-ce que c'est post Avengers 3, donc post Infinity War, il aurait refondé le Shield et se serait mis à la tête de l'organisation, ou bien est-ce que c'est une réalité alternative, comme je l'ai beaucoup lu, qui serait le résultat d'un voyage dans le temps avec une réécriture de l'histoire? On sait à quel point ça peut être casse-gueule, et puis surtout ça peut faire perdre finalement le contact avec les personnages, parce que quand on réécrit comme ça aussi vite des personnages, qu'on change complètement leur background, ben en gros on nie tout ce qu'on a écrit avant, et c'est toujours un peu délicat. Je me souviens de la série Fringe de J.J. Abrams, où justement il y a saison 3 ou saison 4, je crois, une réécriture complète. Il y a une espèce de paradoxe temporel, les personnages changent complètement de background story, et c'est vraiment vraiment difficile de se réinvestir après. Donc moi, ça me fait un peu peur.
Ils ont le setup idéal pour nous faire croire justement à une modification, parce que Starmion, Tony Stark avec le Shield, dans quel comics Marvel a puisé pour créer les personnages du MCU actuel? Ultimate.
Ouais, tout à fait, ouais. Mais visuellement surtout, en fait,
visuellement,
pas forcément
visuellement,
au niveau des histoires.
Imaginons deux minutes. Que on retrouve le Ronin, on retrouve le Stark, directeur du Shield, on retrouve tous les Avengers qu'on connaît avec le Banner à moitié changé, à moitié emprisonné, tous ces personnages-là transformés par justement la pierre du temps de Thanos, qui a utilisé le Black Order ou qui a utilisé ses Skrulls pour modifier le passé de chacun, et on se retrouverait avec un setup temporaire, certes, mais un setup où tous les Avengers qu'on connaît, nous, deviendraient les personnages de Marvel Ultimate, ou du moins se rapprocheraient de leur origine de Marvel Ultimate, avec tous les défauts qu'il y a dedans, justement, avec une Natasha qui serait donc une Skrull, par exemple, et là, ça tomberait parfaitement, puisque ça aussi, c'est Secret Invasion, mais...
Mais là, pour le coup, ça me choquerait pas du tout, tu vois, que Black Widow s'avère être une Skrull.
Ah bon, mais ça
moi,
pourrait être très
fun.
Moi,
c'est, pour le coup, le personnage avec lequel ça passerait le mieux, parce que c'est pas un personnage pour lequel, justement, on a eu une grosse backstory. Après, ça pose quelques problèmes de narration par rapport à Age of Ultron, où on a des flashbacks sur sa formation, etc.
Elle a peut-être été remplacée entre temps.
Mais elle a peut-être été remplacée entre temps, et peut-être que finalement la Skrull qu'il incarne a ses souvenirs, je sais pas trop. C'est le seul endroit pour lequel ça coince un peu avec la théorie de Black Widow égale Skrull, mais ça reste possible. Et effectivement, je pense que si on part sur les Skrull et si on part sur Secret Invasion, il va forcément y avoir un personnage qui va être un Skrull. Enfin, je vois pas comment ça peut se passer.
Black Widow post-Civil War, étant donné qu'elle a perdu Banner, on a revu dans Ragnarok le message de Natasha qui arrive à faire revenir Banner de Hulk. C'est un filler qu'on a depuis avant Civil War, tu vois, leur histoire entre tous les deux.
Il y a une autre information qui semble aussi confirmer cette théorie comme quoi elle pourrait être une Skrull. C'est qu'on parle de plus en plus, en fait, comme on a un arc narratif pour Hulk qui est sur trois films, en tout cas c'est ce qu'a déclaré Mark Ruffalo, hein, les trois films étant Age of Ultron, Thor Ragnarok et Infinity War. A priori, donc, on pourrait avoir une résolution avec des éléments de World War Hulk dans Infinity War, et cette résolution pourrait être liée à la mort de Black Widow, en fait, d'une certaine manière, puisque elle se révélerait être une Skrull, donc ça serait une sorte de mort, en fait,
World War
plutôt
Hulk,
symbolique.
C'est le retour de Hulk sur Terre après que la bombe ait tué sa femme sur Sakaar.
Ça pourrait être une porte d'entrée pour faire une adaptation, en tout cas une adaptation partielle, hein, de World War Hulk, et donc de conclure l'arc Hulk qui a commencé avec Age of Ultron, comme on l'a vu, et puis Ragnarok avec cette parcelle de planète Hulk. Donc ça pourrait aussi confirmer cette rumeur comme quoi Black Widow serait effectivement une Skrull depuis le début. Je sens que ça va faire grincer des dents aussi, Streville, là, hein, le côté.
Bah,
oh là là.
C'est risqué. Dieu. Moi, je trouve ça risqué.
Super chaud, quand même.
À prendre,
ouais.
C'est...
Ouais.
Depuis le début, peut-être pas, mais depuis un certain point, ça pourrait être intéressant. Juste suffisamment pour faire péter un câble à Banner et qu'il rase la moitié de New York, entraînant Thanos par les veuches. Ça pourrait être très, très drôle.
En fait, il faut que ce soit mérité. Et je pense que ce serait intéressant, d'ici, justement, Infinity War, de se refaire un run des films où il y a Black Widow. Donc, en commençant par Iron Man 2, et puis, c'était quoi après? C'était Winter Soldier, dans Avengers, et puis Winter Soldier. Enfin, de refaire les quelques films dans lesquels elle apparaît, et dans lesquels elle a un rôle, et de les regarder en s'imaginant, tiens, et si c'est une Skrull, est-ce que tout ce que je vois là est cohérent? Est-ce que tout ce que je vois là a du sens? Y compris, donc, cette fameuse scène de flashback dans Age of Ultron, qui pour moi est vraiment problématique après. Il n'est pas impossible qu'elle ait été remplacée après Age of Ultron, ça on n'en a pas parlé non plus, mais ça peut être aussi une possibilité.
Y compris la scène de Civil War où elle balance tous les dossiers sur tous les super-héros qui existent.
Voilà.
C'est ça, je pense que c'est post-Civil War qu'elle... Si elle doit disparaître, c'est post-Civil War, c'est là où on la voit le moins. Ça fait 2 ans et demi où on n'a quasiment pas de nouvelles d'elle. Elle recherche toujours Banner. Pendant ses recherches de Banner, elle est tombée sur quelque chose qu'elle aurait peut-être pas dû voir.
C'est ça, ouais.
Et c'est elle qui a disparu parce que les agents de Thanos l'ont capturée à un moment ou à un autre et qu'elle était la clé pour contrôler Banner.
Et ça pourrait être une mort intéressante pour le coup, parce que ce serait une mort qui serait pas vue à l'écran. On supputerait qu'elle, la vraie Black Widow serait donc morte et que elle aurait été remplacée par cette Skrull. Ce qui a l'air d'être aussi renforcé par les choix visuels par rapport à Black Widow. On a vu les premiers artworks qui sont sortis là où elle est blonde, où elle a les cheveux plus courts, elle a carrément un autre costume, donc ils ont vraiment voulu accentuer ce changement, donc je pense que ça pourrait être intéressant de finalement découvrir qu'en fait elle est morte et que bah on l'a pas vue à l'écran en fait, et ça pourrait être une morte quand même assez forte symboliquement, donc why not. J'avoue que la piste de la Black Widow Skrull m'intéresse assez fort, donc est-ce qu'on va dans cette direction là, c'est une très bonne question. Tant qu'ils nous font pas du voyage dans le temps avec réécriture facile pour retconner quelques trucs dont ils sont moins contents, moi ça me va. J'espère que ça sera pas le cas, j'espère qu'ils vont pas nous faire revenir un vrai mandarin en disant non mais en fait on a changé réalité alternative, en fait il existe vraiment. Donc voilà, je sais pas, on en saura plus fin avril. On voulait parler aussi des Agents of S.H.I.E.L.D. mais là on va pas avoir le temps, on va le faire peut-être le mois prochain, on essaie de voir un peu ce qu'on peut attendre de cette saison 5 et puis bah, le mois prochain on aura vu le pilote je pense, donc normalement on devra pouvoir déjà avoir quelques indices de où ça va. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale histoire d'aller se boire un petit kawa.
Jarvis, drop my needle.
Jarvis, Drop My Needle, c'est notre pause musicale, elle aussi tirée du MCU. Ce mois-ci, c'est Fox qui nous a choisi un petit extrait, bah, forcément, de Thor Ragnarok.
Ah ouais, je suis venu ce mois-ci avec Devil's Anus, donc l'anus du diable.
C'est un endroit magnifique. Un gars qui n'a pas fait rire tout le monde dans le film. Hein. Moi, ça m'a fait marrer. Mais bon.
Oui, c'est un truc, c'est l'un des rares trucs qui m'a fait rire dans Thor Ragnarok.
On en reparlera tout à l'heure. Ouais.
C'est pas mal. Le morceau est très sympa, avec toute l'OST et très synthwave.
Bah, c'est Mark Mothersbaugh, donc c'est Monsieur Divo. J'en avais parlé dans Torréfaction, c'est un monsieur qui a quand même 40 années de bouteilles dans le monde de la synth-pop, donc ouais, c'est pour le coup, on a toujours reproché à Marvel de faire des bandes-sons assez génériques, là je pense qu'ils sont vraiment lâchés quoi.
C'est vachement bien et c'est plaisant et pour le coup, c'est un des meilleurs morceaux de cet OST qui est de très haut niveau, faut reconnaître.
Ouais, c'est assez foufou, à part le dernier morceau qui est plus un gag qu'autre chose, j'avoue, mais qui moi me fait moins triper, mais sinon, enfin, je trouve que la BO est vraiment super intéressante. Et on va s'écouter ça tout de suite, donc Devil's and Anus, putain, c'est en plus c'est dur à dire, l'anus du diable par Mark Mothersbaugh. Devil's Anus. Putain, j'espère que je le prononce bien. Mark Mothersbaugh, donc c'était un extrait de la bande-son de Thor Ragnarok. Et on va passer tout de suite à notre focus.
I am MODOK. I am science. I am genius.
I am Science, c'est notre focus sur un personnage, une organisation ou un arc des comics. Ce mois-ci, on a décidé de s'intéresser à un personnage secondaire du film Ragnarok, en l'occurrence Valkyrie, interprété par Tessa Thompson au cinéma. Et Fox et Thomas, vous nous avez préparé donc un petit, une petite rétrospective de qui est le personnage dans les comics.
Alors ce mois-ci, c'est Thomas qui a préparé le focus sur Valkyrie, et c'est moi qui vais le lire, comme d'habitude, évidemment, hein, parce que c'est là, il y a aucune justice dans la vie, évidemment. C'est un perso qui a été créé par Roy Thomas et Sal Buscema. En 1970, elle est apparue en décembre 70 dans Avengers numéro 83. Mais à ses débuts, en fait, elle n'était pas du tout le personnage qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'elle est, c'était une envoyée d'enchantresse chargée de combattre les Avengers. Et Steven Gellert va la réintroduire en 73 dans la série Defenders, avec la backstory dont on va parler aujourd'hui.
Alors justement, bah, intéressons-nous à sa backstory. Son vrai nom déjà dans les comics, c'est Brunhilde, c'est ça ?
Brunhilde, oui.
Brunhilde.
Brunhilde. Hilde.
C'est quoi ? C'est norvégien ?
C'est un prénom nordique, scandinave, oui. C'est un peu comme Bernadette, si tu veux. C'est le Bernadette norvégien.
Ouais, Bernadette, ça fait tout de suite
ça fait moins guerrière avec une hache. C'est plus coup de sac à main sur son mari Jacques Chirac. Mais donc, oui, elle s'appelle Brunhilde. Elle était princesse d'un royaume d'Esheim en Norvège. Royaume très sympathique, mais qui avait été pris d'assaut par Odin.
Ah.
Que le Almighty avait décidé de purger la corruption répandue par son frère. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que Sigmund, l'amant de Brunhilde, va tomber sur le champ de bataille avec d'autres terriens qui vont combattre donc l'armée d'Odin. Et devant la tristesse de la princesse et le chaos et du nombre de morts, c'est un massacre, évidemment, Odin va décider d'honorer les âmes de ses guerriers et va créer le Valhalla dont on avait parlé déjà le mois dernier avec Ella. Et il va nommer Brunhilde, il va la charger de transporter les âmes des combattants humains vers le Valhalla et d'en faire donc une sorte de déesse qui guide les âmes des morts.
D'accord. Alors après, elle va obtenir son surnom de Valkyrie.
Voilà, elle va porter le nom de Valkyrie. La Valkyrie est une guerrière donc d'Odin qui est aussi chargée de transporter les âmes des morts vers le Valhalla. Donc la cité des héros, et elle va créer sa propre armée, les Valkyriors, qui sont évidemment des guerrières, on va pas prendre des hommes, hein, les Valkyries sont uniquement des femmes, et donc ce sera une armée de féminines qui vont être chargées d'escorter les morts, mais également de protéger Asgard et Midgard contre toutes les menaces. Donc c'est vraiment un espèce de corps d'armée d'élite, uniquement composé de femmes, donc de Valkyries, qui vont protéger la Terre et qui vont protéger Asgard. Pendant des millénaires, elle va faire son travail avec son armée, jusqu'au jour où Odin, en accord avec les autres dieu du Panthéon, va lui ordonner de se retirer des affaires humaines et de ne s'occuper que d'Asgard. Donc du coup, elle va perdre une énorme partie de son rôle, puisqu'elle n'aura plus à protéger la Terre, et elle n'aura plus à guider les âmes héroïques humaines vers Valhalla. Elle va se retrouver un peu en errance dans le royaume et elle va y rencontrer une certaine Amora, donc enchanteresse, et elles vont se lier d'amitié. Le problème, c'est que cette relation, évidemment, c'est qu'on est enchanteresse. Hein,
c'est une sorte de Loki féminin. Hein.
Ah, c'est pire. Je trouve qu'elle est pire que Loki même. Mais elle se sert de Valkyrie à ses propres fins. Et quand Brunhilde va s'en rendre compte, elle va se retrouver emprisonnée dans un cristal et Amora va s'en servir afin de transférer une partie de ses pouvoirs sur ses serviteurs. Et à un moment, évidemment, Amora elle est toujours à faire des petites saloperies. Elle va échanger l'âme de Valkyrie avec celle d'une terrienne dans le but de vaincre une sorcière extrêmement puissante qui s'appelle Cassiolea. Le problème, c'est qu'une fois que Cassiolea va être vaincue, le sort qui a été jeté sur Valkyrie, donc le sort d'échanger les corps, va pas être brisé et la Valkyrie va rester piégée dans le corps de la terrienne. Donc c'est un gros problème puisque Valkyrie a perdu son corps et le corps va être retrouvé à Niflheim. Et c'est là que le problème, c'est que le corps va être assassiné et l'âme va être emprisonnée dans un nouveau corps qui a été aspiré. Du coup, il va falloir que Doctor Strange intervienne. Parce que Steven, évidemment, quand les Asgardiens font de la merde, on appelle qui ? Steven Strange.
C'est ça, ouais.
Et Stevie, il va arriver.
Le
il
nettoyeur.
Va faire, bon, on va nettoyer tout ça. Un peu comme dans le film, tu vois. Tu, bon, vous êtes fatigant, vous faites ça, vous remettez le corps, on remet les pièces dans le bon sens, on remet le puzzle, on met au four 45 minutes. Et voilà, elle va retrouver pleine possession de ses moyens. Elle va choper Amora, elle va lui mettre une raclée et elle va l'enfermer à son tour dans un cristal. Et après tout ce bordel, et puis elle en a un peu ras-le-bol de voir que bon, ben sur Asgard, elle a pas grand-chose à faire. Et puis l'expérience d'être retournée sur Terre dans le corps d'une humaine va la convaincre de quitter Asgard et de retourner sur Midgard afin d'aider Doctor Strange et les Defenders sur Terre, parce qu'elle se rendra beaucoup plus utile à défendre des vies qui le méritent, entre guillemets.
Alors côté profil, comment est-ce qu'on pourrait définir l'ami Valkyrie?
Alors c'est pas une Asgardienne déjà. Il faut se mettre dans l'idée que c'est pas une Asgardienne, c'est une humaine.
C'est passif, quoi.
Voilà, c'est un peu plus son passif d'humaine fait qu'elle est un peu, elle est plus proche de toute façon des habitants de Midgard que d'Asgard. Elle a été introduite au début avec dans le groupe les Lady Liberator avec Black Widow, Medusa and the Wasp. C'était un groupe de super-héroïnes. Le but de l'équipe était de suivre les mouvements féministes de l'époque en mettant en avant des personnages féminins. Donc c'était une idée de Marvel de créer des groupes de super-héroïnes un peu comme les drôles de dames mais avec des super-héroïnes. Et malgré l'intention qui pouvait être louable, en fait l'idée a été très très vite abandonnée parce que l'écriture était très mauvaise. Et justement le personnage, on va le réinventer dans la Valkyrie qu'on connaît. Et du coup ce qu'on va voir là, c'est une femme extrêmement forte qui va prendre le rôle qu'Odin lui a confié à cœur. Parce que c'est une femme d'honneur, c'est une guerrière, mais c'est aussi une protectrice. Et elle a le même rapport, c'est une sorte de Heimdall au féminin, c'est-à-dire une fidélité, une droiture sans faille. Le Heimdall qu'on connaît par exemple dans le MCU est très proche de ce qu'est Valkyrie dans les comics aussi, même si lui est un rapport masculin, mais ce sont deux personnages extrêmement droits, extrêmement fidèles à leur principe, et c'est aussi pour ça qu'elle retourne sur Terre et qu'elle décide d'aller aider Strange et les Defenders, parce qu'elle n'a pas oublié ses racines humaines.
Moi j'ai l'impression que la Valkyrie qu'on voit dans le MCU est une Valkyrie post tout ça en fait. On suppose qu'elle a eu toutes ses aventures, ses remises en question, on a des flashbacks hein, où on la voit combattre aux côtés des Valkyries, etc. Donc je pense qu'on a pour le coup une Valkyrie assez différente qui est plus sur le genre. Elle a un côté Jessica Jones en fait.
C'est Jessica Jones.
Elle a connu des heures de gloire en étant super-héroïne et puis ça s'est mal passé. Du coup, elle a décidé d'arrêter. Et je trouve que pour le coup, ouais, on est assez loin finalement de ce qu'on peut découvrir dans les comics. Sauf peut-être sur un point, et justement, on allait en parler, c'est ses relations en fait.
Oui, ces relations sont souvent très mises en avant, mais parce que ça sert un élément de base à chaque fois pour une nouvelle origine, mais ça définit aussi sa force de caractère. Que son amitié avec Amora, par exemple, les différentes manipulations qui vont suivre, qu'on a pu voir, ça va forger sa personnalité tout en la poussant à revenir vers Asgard, qui est un but qu'elle avait abandonné plus ou moins puisqu'elle était plus intéressée par, on lui avait retiré ce droit de transporter les âmes. Elle était un peu isolée, puis elle va repartir sur Midgard histoire de retrouver quelque part ses racines et de faire quelque chose de constructif. Mais c'est toujours en lien avec les autres. Elle fait pas grand chose pour elle au final. Alors que quand tu regardes dans Thor Ragnarok, c'est un personnage qui était une guerrière qui a mené la plus grande guerre de son existence, qui était la guerre contre Ella, et qui a tout perdu au moment où Ella a ravagé le corps des Valkyries, et que ça, apparemment, sa meilleure amie et apparemment compagne s'est mise devant elle pour la sauver, elle l'a poussée, et elle a atterri par l'anus de Satan sur Sakaar, quoi. Et donc, il restait plus rien, quoi.
Ouais, c'est justement pour ça que je disais qu'effectivement, on se retrouve avec une Valkyrie post-événement dans les comics, en gros, qui sont pour le coup un peu sans doute différents. Enfin, on aura peut-être plus d'infos sur sa backstory bientôt. Hein,
J'aimerais bien qu'on en voit plus, ça pourrait être un personnage très intéressant dans le futur, surtout qu'elle est badass en plus, donc ça qui est cool.
On va passer aux recommandations de lecture. Ce mois-ci, une seule recommandation de lecture, mon cher Thomas. Ça a été difficile de trouver des arcs intéressants avec Valkyrie.
Un peu, c'est pas qu'on la voit pas souvent, on la voit quand même dans pas mal d'histoires, que ce soit les Defenders ou les Avengers. C'est juste qu'en général, j'essaie de trouver des choses qui collent un peu avec ce qu'on peut voir du perso. Ou ce qui est au moins intéressant à lire du coup.
Alors du coup on part avec un arc de 2013 qui s'appelle Fearless Defenders.
C'est ça, Fearless Defenders, donc comme tu le disais en 2013, qui a été écrit par Cullen Bunn, qui a pas fait des trucs super excellents chez Marvel, et qui a été dessiné par Will Sliney. Imaginez les Defenders en fait, en prenant à la tête, on y met Valkyrie, en team-up avec elle, Misty Knight, qu'on a pu voir dans la série Luke Cage ou dans la série Defenders justement.
D'accord.
Et les deux vont rester sur Terre pour casser la tronche un peu à tout ce qui va faire une menace. passe pour pas uniquement que New York comme les Defenders qu'on a habituellement, mais à peu près tout ce qui leur passe sous la main en fait.
Et donc c'est un quoi, c'est un team-up intéressant qui du coup parle pas du tout de la backstory de Valkyrie en fait.
Ah non, du tout en fait. Donc comme on a vu sur le focus en fait, où on s'est attardé sur son origine, sur son rôle et ensuite sur pourquoi elle est sur Terre. Donc là on est après le passage, maintenant elle a décidé qu'elle restait sur Midgard et là elle prend son rôle de super-héroïne en fait, où elle retrouve un peu le ce qu'elle avait avant, à défendre Midgard contre les différentes menaces. Et elle le fait avec un team-up avec un personnage qui est un peu plus terre à terre, donc Misty Knight. C'est une série intéressante, assez courte, je crois que c'est 13 issues, peut-être 14, parce que elle est vraiment, c'est une très très bonne lecture, mais les ventes ont pas suivi derrière, donc c'est assez court, quoi.
D'accord. Bon, bah voilà, Fearless Defenders, comme d'hab, on vous filera les liens, donc, dans la petite news qui va avec cet épisode de podcast pour que vous puissiez aller lire tout ça par vous-même. Merci Thomas.
Mais de rien. Et du coup, on va inverser les rôles. Si vous avez des histoires Valkyrie auxquelles j'ai pas pensé, n'hésitez pas à me les balancer, parce qu'au moins, peut-être que je pourrais découvrir des trucs.
On pourrait aller se rencarder, ouais. Et merci Fox, donc, pour le focus.
You're welcome. He's a spy. He's the spy. His secrets have secrets.
Marvel Insider, c'est notre rubrique analyse débat, une rubrique qu'on a lancée il y a quelques épisodes. Je voulais qu'on revienne évidemment sur Thor Ragnarok. Hein. On n'en a pas encore beaucoup parlé dans cet épisode et on l'a tous vu, donc je pense qu'on peut y aller maintenant. Donc attention, ça va spoiler comme d'hab dans les largeurs. Ragnarok avait été présenté comme un film charnière de la phase 3 par Kevin Feige, voire carrément un film charnière pour le MCU. Donc on s'attendait tous, très logiquement, à la découverte d'une nouvelle Infinity Stone, la dernière, celle qui reste encore à choper, c'est la Soul Stone. Et ça n'a pas été le cas, donc on a tous été très surpris, on pensait voir Thanos, on ne l'a pas vu du tout, enfin sauf sur la fin, on y reviendra tout à l'heure. Donc ben la charnière, est-ce qu'elle est vraiment là en fait finalement? Alors j'ai mon avis sur la question, mais je voudrais d'abord vous entendre. Fox, t'en as pensé quoi? Toi je sais que t'as pas trop aimé le film, pour sans doute de très bonnes raisons, hein. Je pense que c'est un film qui va être divisé, mais est-ce que tu penses que c'était une charnière pour la phase 3?
Alors au niveau de la charnière, je comprends qu'on puisse le voir comme un film charnière dans le sens où il clôt l'histoire de Thor, il clôt toute la partie justement Asgard qui est séparée des humains et on va recentrer l'histoire vers la Terre et vers les humains éparpillés dans l'univers, mais il y a plus cette espèce d'entité autoritaire supérieure qui était Asgard pour chapeauter un peu le truc, et Thor va se retrouver un peu comme tous les autres sur Terre avec son peuple, du moins ce qu'il en reste. Pour le coup, ce qui est intéressant, c'est les scènes de fin, les scènes post-crédit de Thor Ragnarok, puisqu'on a ce vaisseau, donc le vaisseau des réfugiés qui se dirige vers la Terre et qui se fait intercepter par un immense vaisseau qui est de ce qu'on sait, le Sanctuary 2, donc le vaisseau de Thanos.
Ça. Ouais, ça a été confirmé par Kevin Feige, hein, il s'agit donc bien de ce que eux appellent en interne, c'est a priori pas le nom officiel, mais c'est comme ça qu'ils l'appellent en interne, c'est Sanctuary 2, donc effectivement le vaisseau de Thanos. On avait pensé à un moment qu'il pouvait s'agir d'un vaisseau Kree, mais c'est finalement pas le cas. Après, si ça se trouve, c'est peut-être un ancien vaisseau Kree qu'il a récupéré.
Oui, il a dû récupérer ça, mais après, le premier Sanctuary, on l'a vu dans Guardians, c'est la planète c'est la planète sur laquelle il est. Ça, c'est Sanctuary 1, c'est-à-dire la planète qui s'est appropriée et transformée technologiquement. Je pense que c'est sa base où il y a ses labos et le reste. Possiblement, là où il a créé les Skrulls ou d'autres trucs. Sanctuary 2, c'est son vaisseau de guerre. C'est son vaisseau de guerre et de conquête. Donc, oui, c'est une charnière parce que ça nous apporte enfin ça ouvre la porte à Infinity War et ça ouvre la porte vers, ça y est, enfin, après 5 ans, on va avoir Thanos qui arrive vraiment, quoi, vers la Terre.
Pour moi, c'est clairement un film charnière. On en avait commencé à en parler le mois dernier, où justement, on parlait de ce détachement, en fait, du côté dieu des Asgardiens, où là, bah, en profitant de Ragnarok, on fait carrément table rase, les mecs, ils arrivent sur Terre, où ils perdent carrément l'image de dieu qu'ils avaient jusqu'à présent. C'est des surhommes, en fait, maintenant, c'est plus vraiment l'image de dieu qu'on s'en faisait jusqu'à présent.
C'est ça, ouais.
Sauf que c'est le seul film où on affiche clairement que Thor est un dieu. C'est ça qui m'a gêné aussi, puisque dans tous les films où tu vois Thor, il est considéré par les autres, et même lui se considère comme un être qui vit très longtemps, qui a des capacités, une technologie hors des humains, mais il est jamais vraiment mentionné, lui-même dit jamais qu'il est un dieu, il est « je suis Thor, guerrier d'Asgard, fils d'Odin, machin ». Et dans Ragnarok, et là, dans cette scène incroyable où elle lui fait « je suis le déesse de la mort et toi tu es le dieu de quoi ?» Et là il dit « je suis le dieu du tonnerre et je suis un dieu ». Et jusque là, et ça a été on en a discuté pas mal avec ma bande qui est allée voir le film aussi, et c'était ce fait très gênant où durant des années on te martèle que ben les Asgardiens sont pas des dieux, c'est juste un peuple qui vit très longtemps, qui a accès à des technologies incroyables qui pour nous pourraient paraître de la magie, mais qui sont en fait des technologies. Et puis évidemment il y a un peu une manipulation d'énergie cosmique et ce genre de truc qui est donc de la magie, mais c'est parce qu'ils savent le faire, si tu veux. Mais en aucun cas même Odin dit nous ne sommes pas des dieux, et là il est le dieu du tonnerre et il est un dieu.
Alors là, je suis pas d'accord du tout. Tu vois, j'ai pas du tout lu le film comme ça, en fait. Pour moi, justement, il y a une démystification complète de ce côté qui était, pour le coup, pas encore clairement établi. Enfin, les deux premiers films Thor, c'est quand même tout le temps, ils se présentent comme des dieux, comme supérieurs au reste des espèces, etc. Donc, et là, justement, j'ai trouvé que c'était complètement désamorcé. Il y a cette scène assez drôle, d'ailleurs, entre lui et le Grand Master, où il est attaché à une chaise et où le Grand Master le présente comme le seigneur du tonnerre, ou je sais plus quoi, et où il dit non, Lord, je suis pas le seigneur du tonnerre, je suis le God of Thunder, et où il l'appelle Sparky après derrière, enfin, il démystifie ce truc là. Donc, justement, moi je l'ai vécu, et ça, plus le retour sur Terre derrière, avec le fait que bon, bah voilà, c'est un peuple comme les autres en exil, et ils sont pas supérieurs à qui que ce soit. Donc, j'ai trouvé justement qu'on désamorçait ce côté dieu un peu froid et rigide qu'on peut avoir dans les deux premiers films, et qu'on en faisait, alors pour le coup, un super héros, effectivement, il a a priori un pouvoir en lui, qui c'était pas dans son marteau au Big Twist, c'était en lui. Donc il y a quelque chose là qui se trame et qu'on va probablement expliquer aussi à un moment, mais c'est plus justement un dieu, c'est devenu un super héros en fait, comme les autres. Il avait justement, je trouve, encore, même dans Avengers, il avait encore ce côté très dieu, très déité. Il y a beaucoup de références qui sont faites dans le film Avengers à ça, hein, au fait que Black Widow dit Captain America à un moment n'y va pas, c'est des dieux, enfin sont littéralement des dieux. Donc Et justement, dans Ragnarok, moi j'ai trouvé qu'on avait désamorcé ça. Thomas, tu voulais réagir ?
Bah c'est juste finir ce que j'avais commencé tout à l'heure, en fait. C'est pour moi, justement, tout le film, ça a monté avec les vannes que tu disais, où Thor fait « Non, mais je suis pas le seigneur, je suis le dieu du tonnerre. » Et en parallèle, Hela qui précise à chaque fois « Mais je suis la déesse de la mort, etc. » On a ces deux personnages qui arrêtent pas de faire une montée en disant « Non, non, on est des dieux, on est des dieux, on est des dieux. » Et ça se finit par Thor qui récupère ses pouvoirs de Rune King Thor, en fait, où il met fin au plan d'Hela. Donc on se rend compte qu'elle perd toute son image de déesse, en fait. Elle est finie, en fait. On casse l'image de déesse d'Hela, et à côté, on voit Thor en pouvoir de Rune King Thor, qui lui se retrouve dans son vaisseau en train d'errer dans l'espace, sans Asgard, sans marteau, avec juste ce qui lui reste de son peuple, et en train de se dire, merde, où est-ce qu'on va maintenant, en fait? Donc ça se fait toute une montée comme ça, justement, où ils nous mettent l'image de la déité asgardienne pour la ruiner juste à la fin du film, en disant maintenant c'est des pécores lambda qui traversent l'espace pour trouver une maison, en fait.
Il y a un côté justement à ce propos très méta de la scène de théâtre, la représentation théâtrale où ils sont en train de narrer les événements du deuxième film, en fait,
avec Matt Damon, ouais.
Avec Matt Damon, et que je trouvais assez drôle, et justement il y a ce côté on insiste un peu sur le côté peut-être trop théâtral des deux premiers films, ou qui se prenait un peu trop au sérieux, justement avec ce côté déité, etc., et où on revient à quelque chose de beaucoup plus finalement humain, ils sont pas parfaits. On découvre qu'Odin est loin d'être parfait, que ça a quand même été un mec qui a manigancé des trucs pas très très clean de par le passé, qui a exilé une sœur dont ils avaient jamais entendu parler. Enfin, c'est pas un mec, tu vois, je trouve qu'on l'a bien fait descendre de son piédestal. Thor, c'est pareil, en fait, il se perd un œil, il récupère des pouvoirs en lui, et donc il acquiert ce statut de super-héros, mais en même temps il perd ce côté de, effectivement, dieu d'Asgard, dieu du tonnerre. Non, c'était pas quelque chose de religieux, c'était quelque chose de finalement probablement très scientifique, et je trouve que justement c'est Mamela, elle a un côté grand guignol, je suis la déesse de la mort, et on sent que c'est finalement que des mots, en fait, c'est que des titres complètement pompeux, et j'ai trouvé que ce film justement désamorçait un peu tout ça. Mais bon, voilà, je peux comprendre qu'on l'ait perçu autrement, et c'est vrai que le côté justement vouloir désacraliser tout ça, démystifier un peu, redonner un côté fun en fait au personnage de Thor, ça devait, à mon sens, en passer par quelque chose de plus léger, et je trouve que ça a été réussi. On a quand même des enjeux, même si effectivement, dès qu'Asgard explose, on a juste une vanne derrière, et c'est je peux comprendre que les gens soient dit bah merde, on aurait quand même voulu un petit moment un peu dark. Mais moi, je trouve que c'était une bonne manière de réinventer le personnage et puis surtout d'en faire quelque chose d'un peu fun, parce que on va pas se mentir, et je les ai revus il y a pas longtemps, les deux premiers Thor sont rigolos, mais quand même, on s'emmerde un peu par rapport au reste de la production du MCU. Je voulais qu'on termine cette petite séance très vite, juste en parlant donc de l'Infinity Stone. Moi, c'est Heimdall, j'en reste convaincu, et je pense que ça va justement être la raison de l'arrivée de Thanos à la fin du film. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous pensez qu'on entend parler et que ce sera Heimdall, ou bien c'est complètement autre chose?
Ben là, du coup, c'est un peu tombé à l'eau. Enfin, je pense que 90% des théories crafting qu'on avait pu faire sur Thor s'est cassé la gueule à la sortie du film.
Concernant Heimdall, moi, ça reste complètement viable. Hein. Je trouve qu'on a pas du tout exposé l'Infinity Stone dans Thor Ragnarok, et donc toutes nos théories concernant Heimdall continuent d'être viables, et justement, c'est ce qui expliquerait l'arrivée du vaisseau de Thanos à la fin. Il vient récupérer la pierre qui est dans Heimdall, ou sous forme d'Heimdall, enfin je sais pas encore trop comment, mais il y a clairement quelque chose possible, qui est encore jouable à ce niveau-là.
Peut-être qu'ils sont les yeux d'Heimdall, tout simplement.
Ou alors il viendrait récupérer le Tesseract aussi. Hein.
C'est possible,
parce qu'on voit Loki qui passe à côté quand il va vers la...
le Tesseract.
Hein, Loki servait Thanos il n'y a pas si longtemps, donc il a peut-être bargain avec Thanos, et voilà, il a trouvé le moyen grâce au Tesseract de lui envoyer un message et de venir récupérer la pierre en échange de quelque chose, parce que Thanos peut complètement le pulvériser.
Après, moi je reste encore assez convaincu aussi pour la piste Heimdall. Je pense que la post-credit scene en fait avec Sanctuary 2, elle sert justement à dire bah Loki a récupéré le Tesseract en allant jeter le crâne sur Thor dans Eternal Flame, et c'est pour ça qu'ils se font choper à la fin.
Mais en termes de rendement aussi, quand tu réfléchis, il y a trois pierres de l'infini du coup sur Terre, donc il y aurait Heimdall, ou ce qui se trouve avec Thor et qui serait la pierre de l'infini qu'on attend, ou alors elle est dans Black Panther, et dans ce cas-là elle est sur Terre aussi. Il y a Doctor Strange, et du coup il y a Vision. Non, il y en a quatre en fait. Du coup, il y aurait le Tesseract aussi s'il est avec Loki. Donc à ce moment-là, ça commence à devenir assez rentable pour Thanos de se pointer à un endroit où il y a quatre pierres qui l'attendent, quoi.
C'est surtout, moi, ça permettrait de mettre en place quelque chose que j'aimerais beaucoup. C'est que pour l'instant, on part du principe que Thanos aura directement les pierres en arrière. Et s'il faut, ça pourrait être une situation plus dangereuse. Merde, j'en ai cinq. Et la sixième, elle est où? Elle est juste sous ton pif, c'est Heimdall en fait. Donc moi, je suis encore assez convaincu sur cette théorie. Hein.
Bah écoute, on verra. Hein. Je voulais juste qu'on en reparle. Donc si vous voulez réécouter nos élucubrations sur les Infinity Stones, c'était dans épisode du mois dernier, si je dis pas de bêtises, où on essayait d'explorer un peu les possibilités pour cette sixième pierre qui manque toujours. Et pour ce qui est de ce mois-ci, on va clôturer donc notre Marvel Insiders et on va passer au courrier.
Are you Tony Stank?
Yes, this is Tony Stank. You're in the right place. Thank you for that. Never dropping that, by the way.
Et c'est l'heure de notre rubrique courrier avec trois questions qui nous viennent de Twitter. Ed Bloom qui nous dit « Grosse déception de Thor dans mon cas, vous avez pas peur du gardien de la galaxisation des films Marvel? Jamais bien un univers, un genre. » On va pas s'étendre trop longtemps non plus, on en a déjà parlé tout à l'heure de Thor Ragnarok, mais globalement, moi je pense que c'était le bon choix. Si on veut partir dans du cosmique fun délirant, moi je suis client, et effectivement, si on veut un peu de cohérence, il faut qu'on se rapproche des gardiens de la galaxie dans ce cas-là. Ça empêche pas d'avoir d'autres genres. On sait que les films Captain America sont beaucoup plus serious business, pareil pour une partie des films Iron Man. Enfin, ça empêche pas d'avoir des tons différents dans les autres films, mais effectivement, on veut essayer d'avoir une cohérence du côté cosmique. Moi, je pense que c'était le bon choix, et la preuve, c'est que ça fonctionne. Enfin, manifestement, c'est le meilleur film en termes de recettes de la franchise, donc je suis pas inquiet. Je pense que ça les empêchera pas d'explorer d'autres univers, et je pense qu'on va avoir une grosse claque avec Infinity War, où justement, on risque d'avoir un gros shift sur les choses qu'on a l'habitude de voir en termes de narration. Deuxième question qui nous vient de Killoren sur Twitter, c'est la première fois que je note des différences flagrantes entre les trailers et les films. Par exemple, le coup du marteau brisé était en ville à la base. Comment expliquez-vous ces changements? Alors, on n'en parlera pas ici en détail parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a une interview de Taika Waititi où il explique justement les raisons de ce changement. C'est un choix narratif, en fait. Il a été décidé sur le tard, en gros, de délocaliser cette scène parce que ça fonctionnait mieux dans le flow du scénar. Donc voilà, ça continue de prouver que le flux tendu, ça peut avoir ses avantages aussi, hein. Ça permet même sur la post-prod de faire des changements drastiques en termes de ton. Je vous linkerai l'interview si j'y pense de Taika Waititi où il parle de tout ça, mais sinon vous googlez Taika Waititi explication de la scène du marteau, vous allez trouver ça assez facilement. Et puis dernière question toujours sur Twitter, Cyril qui nous dit simple pour vous, à quoi appartient le gros vaisseau à la fin de Ragnarok? Fox, on vient d'en parler, hein, donc c'est Sanctuary 2, c'est ça?
C'est ça, c'est Sanctuary 2, le deuxième vaisseau qui est le vaisseau de guerre de Thanos, tout simplement, hein. Et ça veut dire qu'il est en route vers la Terre et qu'il a emmené toute son armée avec lui.
Et que ça va bastonner sévère, donc. Et c'est la fin de ce 41e épisode des Clairvoyants. On espère que vous en aurez appris un peu plus sur Valkyrie, qu'on vous aura éclairé sur Thor Ragnarok. On se retrouve le mois prochain, je sais pas encore de quoi on parlera, mais on vous préviendra dès qu'on sait. On va
parler des Agents of S.H.I.E.L.D. un peu.
On va parler des Agents of S.H.I.E.L.D. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de focus côté télé, là on va y retourner un petit peu en espérant que cette saison 5 me réconcilie avec la série.
On aura eu Punisher.
On aura eu Punisher, effectivement, on pourra en parler aussi. Bref, on trouvera bien de quoi vous occuper. En attendant, il y a toujours le thread MCU sur Geekzone où vous pouvez venir partager. Partagez vos news, vos infos, vos théories crafting foireux, on aime bien ça. Il y a des dossiers, il y a encore eu un dossier récemment sur Thor Ragnarok, justement, où je parle un peu de l'envers du décor du film. Je vous rappelle le bouquin sur Marvel, tout ça, on va pas en parler pendant 1000 ans non plus. Il existe, il est chez Third Edition, donc dans les coulisses du Marvel Cinematic Universe. Et puis si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à venir faire un petit don sur le Patreon de Geekzone. Ça se trouve en homepage, vous cliquez sur soutenir Geekzone, et comme ça, bah, nous, ça nous aidera à continuer à produire des podcasts de qualité. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Salut les gars, salut Fox.
Et bisous Fosk.
Et ciao Thomas.
Salut tout le monde.
C'est ça?
Brunhilde, oui.
Brunhilde.
Brunhilde. Hilde. Hilde.
Et voilà.
Les clairvoyants.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Est-ce qu'un jour on remplacera nos repas par de la poudre? Qu'est-ce qu'il se passe dans nos têtes quand on rêve? Partir en vacances sur une exoplanète, c'est pour bientôt? Les réponses à ces questions et bien d'autres, c'est dans Ramène ta science, le nouveau podcast scientifique de Geekzone. Avec Dr Saucisse, l'ami Bini et Faskill aux commandes, on vous parle de sujets peu connus, de sujets mal connus ou de sujets qui trimballent leur lot d'idées reçues en décryptant leur impact sur notre quotidien. Ramène ta science, RTS, c'est votre nouveau rendez-vous scientifique et c'est sur geekzone.fr.